Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, apa kabar? Voici l'émission en français de la voix de l'Indonésie de Jakarta, l'émission de dimanche, avec moi, Muhammad Suartono. Nous avons déjà arrangé le programme pour vous emmener vos activités ce soir à peu près une heure. Et notre sommaire du jour sera commencé avec des informations de la voix de l'Indonésie, avec des actualités du jour et aussi le mise en point aujourd'hui dans l'histoire et les nouvelles de notre pays. Et après ça, il y a trois magazines. Le premier, c'est magazine de Persona Indonesia, suivi avec magazine de Warna-Warni ou Couleur Indonésienne. Et le dernier, c'est le magazine de Pelangi Nada ou magazine de musique. Chers juristes auditeurs de la voix de l'Indonésie en entière, vous pouvez écouter notre émission non seulement par des ondes courtes sur la fréquence 9525 kHz, mais aussi vous pouvez écouter avec le streaming audio. Voici notre site www.voi.co.id. Bon, chers amis dans quatre coins du monde, allez maintenant écouter le premier programme, les actualités du jour dans les informations de la voix de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président indonésien Joko Widodo a été désigné comme une source d'inspiration en Asie. L'Indonésie et la Corée du Sud atteignent l'accord commercial de 18 milliards de dollars américains. Les exportations augmentent. Le gouvernement indonésien optimise que ce pays peut devenir le centre de prêt-à-porter pour les femmes musulmanes du monde en 2020. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le chef du bureau présidentiel, M. Teten Mas Duki, a déclaré samedi à Jakarta que le président Joko Widodo a reçu le prix de l'Association des journalistes d'Asie comme une personne inspiratrice asiatique 2016. Lors de sa visite en Corée du Sud il y a quelques jours, le processus d'évaluation a été fait en avril 2016. En République de la Corée, le président Joko Widodo a fait également le dialogue avec le peuple coréen, surtout ceux qui sont à la recherche pour les dirigeants asiatiques qui ont le leadership et inspirent les jeunes. Au cours de sa visite en Corée, le gouvernement de la ville de Séoul a également nommé le président Joko Widodo en tant que citoyen d'honneur de la ville. Le président Joko Widodo a rencontré son homologue de la République coréenne Park Geun-hye, des politiciens, des gouverneurs et les gens en Corée du Sud. Le forum d'affaires entre l'Indonésie et la République de la Corée du Sud, qui a été assisté par le président Joko Widodo, a produit l'accord commercial d'une valeur de 18 milliards de dollars américains, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, à Jakarta le samedi. Le président Joko Widodo vient d'achever une visite d'État en Corée du Sud de 16 au 18 mai 2016. A été continuée la visite en travail en Russie et a tenu une réunion bilatérale avec le président Vladimir Poutine le 18 mai 2016, puis a participé au sommet ASEAN-Russie du 19 au 20 mai 2016. Selon la ministre Retno Marsudi, une visite d'État en Corée du Sud a produit des accords commerciaux et il y a l'engagement fort du gouvernement sud-coréen pour renforcer la coopération dans divers domaines avec l'Indonésie. En outre, il y a deux coopérations qui seront ajoutées et priorisées, à savoir l'accélération de l'industrialisation et le développement des industries. Après une rencontre avec le président Park, sept accords de coopération ont été signés, tels que le domaine de l'industrie maritime, l'industrie créative, des sports, géospatiale, la zone économique spéciale, la restauration de tourbières et l'éradication de la corruption. Le président Joko Widodo a donné son discours à la conférence sur le leadership en Asie, qui a été assisté par le président Park, l'ancien président américain George Bush et d'autres dirigeants du monde, a déclaré la ministre Retno Marsudi. Le message du président Joko Widodo est « L'Indonésie développe une économie ouverte et compétitive, la nécessité d'un développement inclusif et le leadership qui a entendu la voix du peuple ». Le gouvernement indonésien détermine ce pays comme centre de prêt-à-porter pour les femmes musulmanes du monde en 2020. L'autre fonctionnaire du ministère indonésien du commerce, Cahya Widayanti, lors d'une conférence de presse sur le festival de prêt-à-porter pour les femmes musulmanes 2016, qui a eu lieu au ministère du commerce récemment, a déclaré qu'elle était optimiste, l'Indonésie avait un grand potentiel en tant que centre de prêt-à-porter musulman du monde. Les exportations de prêt-à-porter indonésiens ont augmenté au cours des dernières années. En 2014, les exportations de ce produit ont atteint 4,63 milliards de dollars américains. Selon Cahya Widayanti, les pays destinataires des exportations de prêt-à-porter pour les femmes musulmanes sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Corée, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, les Émirats Arabes Unis et la République populaire de Chine. Actuellement, l'Indonésie est le cinquième plus grand pays consommateur de la mode musulmane, qui a atteint de 12,69 milliards de dollars américains en 2014. La première est la Turquie, les Émirats Arabes Unis, la Nigeria et l'Arabie Saoudite. Selon Jaya, ces données montrent l'importance du développement des modes musulmans indonésiennes afin de devenir une référence de l'industrie de la mode musulmane dans le monde. Pour encourager les exportations, le ministère du Commerce organise une variété de festivals de la mode musulmane, entre autres le festival de prêt-à-porter pour les femmes musulmanes 2016, qui aura lieu du 25 au 29 mai à Jakarta. Manase Sogavar, que l'Indonésie a participé au groupe Mélanésien du Fer de Lance pour protéger seulement leurs propres intérêts. Cela a été déclaré par le directeur général pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Desra Percaya, dans un communiqué de presse comme cité à Jakarta samedi. Le premier ministre Désiré Solomon, sur le site, a déclaré que l'octroi de statut de membres à part entière du Mouvement uni de libération de la Papouasie occidentale dans le groupe mélanésien du Fer de Lance peut être justifié parce que l'Indonésie a également tenté d'obtenir le statut dans un groupe régional pour protéger seulement leurs propres intérêts, plutôt que d'engager un dialogue sur les questions graves des droits de l'homme en Papouasie occidentale. Répondant à la déclaration du Premier ministre Sogavar, l'ambassadeur de Desra Percaya estime que cette déclaration a violé les principes de base de la souveraineté et de la non-ingérence comme mentionné dans l'accord de la création de glutamate monosodique en 2007. Il a affirmé comme troisième plus grand pays démocratique, le respect des droits de l'homme était le principe important pour l'Indonésie. Pour cette raison, selon lui, l'Indonésie a ratifié 8 des 9 instruments principaux des droits de l'homme des Nations Unies et coopère dans divers mécanismes des droits de l'homme. Le ministre indonésien du Tourisme, M. Arif Yahya, a déclaré que la promotion en Chine devait être améliorée afin d'augmenter les arrivées de touristes de ce pays à l'Indonésie. Il a été dit par Arif Yahya au cours d'une visite à Pékin du 19 au 21 mai 2016. l'une des promotions qui est faite est de suivre la troisième, cela veut dire le tourisme international de Beijing, tenu du 20 au 22 mai. Le nombre de touristes chinois qui ont voyagé partout dans le monde était 120 millions de personnes en 2015, soit augmenté par rapport à 1992 qui a atteint seulement 2,98 millions de personnes. Mais de 120 millions de touristes chinois qui ont voyagé à l'étranger, seulement 1,2 million a visité l'Indonésie. Le gouvernement prévoit que le nombre de touristes chinois visitant l'Indonésie atteint 2 millions de personnes ou augmente 800 000 de personnes. Arif espère qu'il y a beaucoup de vols sans escale Chine-Indonésie, à la fois réguliers et non réguliers, outre de maximiser la promotion. Il a demandé à la compagnie aérienne nationale de profiter vraiment la route aérienne vers la Chine parce que non seulement l'Indonésie qui cible les touristes chinois. L'ambassadeur l'Indonésie en Chine et en Mongolie, M. Sugeng Raharjo, s'efforce toujours de promouvoir l'Indonésie au peuple chinois. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, qui présentent de divers infos intéressants de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Sangihe, Sulawesi Nord. La gouvernance du président Joko Widodo Yusuf Kala réalise la route APH de la mer avec le bateau à moteur Caraka Jaya Niaga 332, possédé par la société anonyme Pelni, qui a amarré au port Tahuna, Sangihe, Sulawesi Nord, le mardi dernier. La présence de bateaux à moteur Caraka 32 était acceptée par le gouvernement de la région Sangihe, représenté par Edwin Roring, le secrétaire régional. Le capitaine Jarod Wibowo a dit l'itinéraire fixe du bateau Caraka 32 et Makassar, Tahuna, Lirung, Morotai, Tobelo, Ternate, Babang, aller-retour. Tous les 21 jours, le navire revient au port Makassar. C'est similaire avec les autres ports. Le directeur du Bureau du commerce et de coopération Sangihe, Olden Lahamendu, a déclaré le bateau Caraka 32 porte 43 conteneurs déchargé au port Tahuna. Les conteneurs contiennent du sucre blanc, ciment blanc, la farine, le riz et les autres besoins matériels de la communauté qui ont été très coûteux à Tahuna. Avec la présence de la route APH de la mer, tous les prix du besoin public vont diminuer, donc augmenter le pouvoir d'achat des gens. La deuxième info vient de Bogor, Java West. Le jardin botanique Bogor, sous les auspices de l'Institut indonésien des sciences LIPI, a célébré son 199e anniversaire à Kolam Gunting, au jardin botanique Bogor, le mercredi 18 mai 2016. Dans le thème d'anniversaire Road to Bicentenary Plants and People in Harmony, on a lancé aussi des moyens de service public nommé Visitor Center. L'inauguration du centre d'accueil qui est situé près de l'entrée principale a été menée par le chef de l'IPI, Iskandar Zulkarnain, assisté par le chef du Centre pour la conservation des plantes du jardin botanique de l'IPI, Didik Vidyatmoko, ainsi qu'un large éventail de Connex. Iskandar Zulkarnain a dit le jardin botanique a un certain nombre de fonctions, y compris la conservation, la recherche, le développement, le tourisme et l'autonomisation des communautés. Le jardin botanique Bogor a été fondé le 18 mai 1817 par Reinhold, un botaniste allemand. Initialement, ce jardin botanique était seulement utilisé comme un jardin expérimental pour les cultures de plantation qui sera introduit aux Pays-Bas. Mais dans son développement, la mise en place du jardin est devenue le précurseur du développement de la science en Indonésie en tant que forum pour les scientifiques, notamment la botanique. Pour développer une collection de plantes en fonction du climat de l'Indonésie, le Jardin botanique Bogor, jusqu'à présent, a construit plusieurs autres branches du Jardin botanique, à savoir le Jardin botanique Cibodas, Purwodadi et Eka Karya, Bali. La dernière info vient de Sukabumi, Jawa West. Le Bureau du tourisme et de la culture de la province Jawa West forme les résidents qui vivent autour de l'intérêt touristique Géoparc Ciletuh à Sukabumi d'être guide touristique. Le directeur du Bureau du tourisme et de la culture de Jawa West, Nunung Sobari, a dit à l'agence de presse Antara, récemment à Sukabumi, le Géoparc Ciletuh deviendra un site touristique de classe mondiale. À cette raison, il utilise les résidents locaux pour être formés comme guide touristique afin de fournir le meilleur service aux touristes qui viennent là-bas. Le directeur du Bureau de la jeunesse, des sports, de la culture et du tourisme de Sukabumi, Ahmad Riyadi, a déclaré qu'au moins chaque guide maître une langue étrangère pour faciliter la communication. Chaque guide doit aussi avoir l'apparence et une connaissance approfondie du Géoparc Ciletuh, de sorte que pas de touristes se confondent avec l'histoire, la culture, l'art et le potentiel du Géoparc Ciletuh. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Chers auditrices et auditeurs de la voix d'Indonésie, voici l'aujourd'hui dans l'histoire, ce soir l'édition 22 mai. On va commencer le 22 mai 1907, la naissance d'Hergé. George Prosper Rémy, plus connu sous le pseudonyme Hergé, est né le 22 mai 1907 en Belgique. Il est devenu célèbre en tant qu'auteur de bandes dessinées et plus précisément pour les aventures de Tintin. Il commença la réalisation dans son supplément de quotidien le 20e siècle le 10 janvier 1929, Quick et Flupke en 1930, puis Joe, Z et Joko en 1935, vira ensuite enrichir ses créations. Il est décédé en 1983 d'une leucémie. On chante le 22 mai 1927 environ 200 000 morts dans un séisme en Chine. La terre tremble en Xining dans le centre-ouest de la Chine en provoque un des plus terribles bilans humains de l'histoire des séismes. Environ 200 000 morts, l'Asie et notamment la Chine, très peuplée, sont souvent très fortement affectés par ce type d'événements. C'est d'ailleurs dans une région assez proche que le séisme le plus meurtrier se produit ici au 6e siècle, faisant 800 000 morts. On change le 22 mai 1960, tsunami du Chili au Japon. Un séisme de 9 sur l'échelle de Richter, la plus haute magnitude jamais mesurée, se produit près de la côte chilienne. Il déclenche un tsunami, grande vague dans le port en japonais, qui détruit tout sur son passage. 2000 victimes sont recensées au Chili et la vague de 18 mètres se propage jusqu'à Hawaï, puis côté japonais. Elle fait des centaines de morts sur son passage. Entre 1922 et 1972, Nixon, un Américain à Moscou. Richard Nixon se rend en visite officielle à Moscou. Aucun président des États-Unis n'a été en Union soviétique depuis le voyage de Franklin Roosevelt à Yalta, Ukraine, en 1945, pour préparer l'après-guerre. Richard Nixon et Leonid Brezhnev font passer leur volonté de détente devant l'aube différente sur la question du Vietnam. Ils parviennent ainsi à la signature d'un traité sur la limitation des armes nucléaires stratégiques. Nixon ira ensuite en Pologne, à quand le président américain ne s'est encore rendu. Ses amis, c'était notre l'histoire d'aujourd'hui ce soir, de l'édition 22 mai. À demain.
La voix de l'Indonésie. Soyez la première, soyez différente, soyez la meilleure.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Chers amis, bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec la mise au point de la semaine et en petit titre, le Parlement s'est mis d'accord de commencer à discuter sur le projet de la loi de l'exonération d'impôts. L'impact du changement de la carte politique à cause de la décision du parti Golongan Karya, soit Golkar, à soutenir le gouvernement de Joko Widodo Yusuf Kalla commence d'être vu au Parlement. Le leader général de Golkar, Setia Novanto, assure que la discussion sur le projet de la loi de l'exonération d'impôts se marche bien. Avec l'assurance de Setia Novanto, toutes les factions au Parlement jeudi dernier ont également convenu de commencer la discussion sur le projet de loi sur l'exonération d'impôts lundi prochain. Novanto a dit que Golkar ne changera pas l'attitude d'opposition aux politiques du gouvernement au Parlement. La première étape est d'assurer la rapidité de la discussion du projet de loi de l'exonération d'impôts. Précédemment, la discussion du projet de la loi de l'exonération d'impôts au Parlement était entravée. Bien que le leader du Parlement du parti Golkar, Ade Komarudin, a plusieurs fois assuré la rapidité de discussion du projet de la loi, le rejet reste provient d'un certain nombre de factions au Parlement. Le Parti de la démocratie d'Indonésie Lutin, PDIP, a même rejeté la continuation de discussion sur ce projet de la loi si la discussion du projet de la loi sur l'éradication de l'action criminelle de corruption n'est pas assurée. En ce qui concerne, Novanto a aussi assuré qu'on discutera aussi le projet de la loi de l'éradication de corruption. Après le rejet massif du public, le projet de la loi de la Commission de l'éradication de corruption a été reporté à la demande du président Joko Widodo. La fraction du Parti Gerakan Indonesia Raya Gerindra, qui a précédemment refusé fortement le projet de la loi de l'exonération d'impôts, est prête de le discuter. Même le vice-leader de la commission 11 de la fraction Gerindra, Supriyatno, est désigné leader du comité de travail de la commission 11 pour discuter du projet de la loi de l'exonération d'impôts ensemble avec le gouvernement. Le membre de la commission 11 de la fraction PDIP, Hendrawan Supratikno, a souligné qu'il n'y a pas d'obstacle dans le projet de la loi de l'exonération d'impôts. Toutes les fractions se sont mises d'accord de commencer la discussion. Selon Hendrawan, il y a un nombre de matériels d'être discuté, à savoir la valeur de rançon qui doit être payée par ceux qui demandent l'exonération d'impôts à l'État et l'impunité et le mécanisme d'amnistie fiscale. Le Parlement a projeté de finaliser ce projet de la loi et le ratifier dans la période de la séance 2015-2016, soit le juillet en maximum. Chers amis, c'était la mise au point de la semaine.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici les événements de la semaine. Les événements du lundi. La Norvège espère le développement de la coopération du commerce et l'investissement. L'ambassadeur de Norvège en Indonésie, Stig Trovik, lundi à Jakarta, a espéré que l'Indonésie et la Norvège pouvaient accroître la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement. Il a invité les hommes d'affaires indonésiens à investir en Norvège. Selon lui, ce pays a la stabilité politique nécessitée par les hommes d'affaires pour investir. Il a également invité les hommes d'affaires norvégiens à investir en Indonésie, surtout dans le secteur des énergies renouvelables. L'ambassadeur Stig Trovik a déclaré que la valeur des exportations de l'Indonésie et de la Norvège atteignait actuellement environ 200 millions de dollars américains par an. Ce chiffre pourrait être augmenté au cours des prochaines années. Selon lui, la Norvège est un marché potentiel pour les exportations indonésiennes. L'Indonésie peut exporter beaucoup de choses vers la Norvège, surtout le secteur de l'industrie textile. Au même jour, le vice-président Yusuf Kalla et l'ONU ont discuté les progrès du développement durable. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla et le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU sur le développement durable, Jeffrey Sachs, ont discuté des différents domaines dans le développement durable en Indonésie, notamment le changement climatique et le développement rural. Yusuf Kalla, au palais vice-présidentiel à Jakarta, a déclaré lundi que l'Indonésie, en tant que l'État membre de l'ONU, bien sûr participait au développement durable. Mais il y avait des choses à faire ensemble. Il a souligné le rôle de l'Agence nationale de planification de développement à conçu le développement de la centrale régionale et le village sur la base du cadre d'objectifs de développement durable en 2030, qui a été accepté par l'Assemblée générale des Nations unies à New York, les États-Unis, le 25 septembre 2015. Les événements du mardi, le président indonésien Joko Widodo a souligné l'importance d'innovation dans le domaine social. Le président indonésien Joko Widodo, mardi à Séoul, en Corée du Sud, a prononcé un discours lors de la 7e conférence sur le leadership asiatique. Dans son discours, il a mis en évidence l'évaluation de l'innovation de technologie de l'information qui a été atteinte par la communauté mondiale actuellement. Selon le président, ce développement doit être équilibré en progressant l'innovation sociale. Il est destiné à combler les disparités sociales qui sont souvent l'élément déclencheur et l'anarchie dans la société. Dans son discours, le président a également mentionné qu'il y avait déjà procédé à l'innovation sociale en effectuant une visite impromptue. L'effort visait à mener un dialogue et de recevoir des entrées du peuple depuis qu'il a conduit la ville Solo dans le centre de Java et Jakarta. La 7e conférence sur le leadership asiatique est un forum des hommes d'État, des scientifiques et des hommes d'affaires de fournir des contributions en sciences et promouvoir la valeur de leadership dans le changement à une meilleure gouvernance en Asie et dans la communauté mondiale. Les événements du mercredi, l'Indonésie et la Russie intensifient la coopération dans le domaine de l'économie et la sécurité. Le président indonésien Joko Widodo a mené une réunion privée avec son homologue russe, Vladimir Poutine, et ensuite a présidé la réunion bilatérale Indonésie-Russie le mercredi 18 mai 2016. Des entretiens étaient effectué dans la visite de travail du président Joko Widodo à Sochi en Russie. Dans une séance privée, le président a exprimé sa gratitude pour les vœux très constructifs du président Poutine à l'huile de palme. Le président a espéré que la politique du président Poutine puisse être transmise de sorte que les exportations d'huile de palme indonésienne soient durables. Le président Joko Widodo a souligné sur deux domaines de coopération, à savoir la coopération dans le domaine économique et la défense et aussi la sécurité. Il a déclaré que l'Indonésie et la Russie sont membres du G20, donc les deux pays ont l'intérêt à contribuer à la reprise de l'économie mondiale. Les deux présidents se sont également mis d'accord d'augmenter les chances des données de renseignement afin de lutter contre le terrorisme. Les événements du jeudi, La Banque islamique de développement, ou BID, a mis en œuvre avec succès un certain nombre de programmes importants. Le ministre indonésien des Finances, M. Bambang Brojonegoro, dans la conférence de presse de 41e réunion annuelle de la Banque islamique de développement à Jakarta jeudi, a déclaré que la BID a réussi à mettre en œuvre des programmes importants afin de soutenir son programme annuel. L'existence de la BID avait été en mesure de soutenir l'Indonésie dans le développement national jusqu'à présent. À l'ordre du jour de clôture de la réunion annuelle de la BID à Jakarta, il a été signé des accords entre la BID avec 14 pays membres pour donner un financement de 1,6 milliard dollars américains. Dans ce cas, l'Indonésie a obtenu la dette de 824 millions dollars américains pour soutenir les programmes d'infrastructure, l'éducation et la centrale électrique. Les événements du vendredi, la ministre indonésienne des entreprises d'État, Madame Rini Sumarno, a dit que la compagnie pétrolière et gazière russe Rosneft signerait une coopération à construire une raffinerie de pétrole à Tuban, Java Est. La valeur de l'investissement atteint 13 milliards de dollars américains. Cela a été déclaré par Rini Sumarno à Sochi, en Russie, après avoir accompagné le président Joko Widodo de recevoir la visite de courtoisie du directeur général de Rosneft, Igor Sechin, vendredi. Selon Rini Sumarno, la raffinerie de Tuban peut augmenter la réserve de pétrole national et peut aussi devenir une liaison commerciale de pétrole régional à quelques régions et dans les pays étrangers comme les Philippines. L'accord sera signé jeudi la semaine prochaine, 26 mai 2016. Rosneft engage également pour que la compagnie pétrolière indonésienne PT Pertamina puisse participer à la gestion des champs de pétrole en Russie. Selon Mme Rini Sumarno, actuellement la Russie fait une étude de faisabilité à chercher des champs de pétrole appropriés pour l'Indonésie. Chers amis, c'était les événements de la semaine de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, auditeurs de la Voix de l'Indonésie en Angleterre, vous avez écouté tout à l'heure les informations de la Voix de l'Indonésie. Maintenant, c'est le tour de notre rubrique suivante, c'est le magazine de Persona Indonesia ou le magazine de la culture.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Et ce soir, nous vous invitons à visiter Kebumen, à Java Central, afin de jouir de la beauté de la cascade Silancur. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie. Kebumen possède le potentiel touristique remarquable. La beauté naturelle typique de la campagne devient l'attraction principale. Une des sites touristiques qui devient une destination touristique dans la région Kebumen est Curug Cilancur, soit la cascade Cilancur. La chute d'eau Cilancur est précisément située dans le village Wadas Malang, district Karangsambung, Kebumen. L'air était frais et le long de la route menant à la cascade Cilancur, il y a de belles régions de plantations. De belles terrasses de riz des citoyens et de pins qui ombragent ajoutent à la beauté des paysages autour de la cascade Cilancur. Cette cascade se trouve dans la réserve naturelle nationale géologique Karangsambung. Pour l'atteindre, on a besoin d'énormément lutter parce qu'on doit passer à travers un sentier pour marcher sur les pentes des collines à une hauteur de 220 mètres en dessous du niveau de la mer. Outre rempli de mauvaises herbes, d'une certaine route est trop rocailleux et seulement assez large pour une seule personne. Pour atteindre la cascade Cilancur à une altitude d'environ 25 mètres avec une pente d'environ 60 à 90 degrés, on a besoin de l'endurance supplémentaire car il faut passer par ces eaux et des bas. Bien qu'on nécessite une lutte acharnée pour obtenir au-dessus de la cascade Cilancur, c'est garanti qu'on atteint le sommet et voir la beauté, votre fatigue va bientôt disparaître. La fraîcheur est immédiatement ressentie lorsque vous lavez votre visage et lavez vos pieds dans cette cascade Cilancur. Cette cascade semblait de former une ligne blanche qui domine. Contrairement à la chute d'eau en général, qui a un réservoir d'eau en dessous, à cette cascade, la chute d'eau est écrasée dans un gros rocher pour produire l'éclaboussure d'eau douce. Au moment du soleil dans un état parfait, les éclaboussures d'eau sur le vent regardent aussi colorées comme un arc-en-ciel. Si vous partirez de la ville Kebumen pour atteindre le village Wadas Malang, c'est mieux de traverser le district Alian. Puis, quand on atteint le marché Indrakila au village Krakal, suit le chemin à travers le village Plumbon jusqu'au village Wadas Malang. Puis, continue le voyage de continuer à suivre la route jusqu'à ce qu'on trouve le tour avec la Rock Palace sur bois de la route. De là, le voyage a continué en marchant dans le ravin sur la gauche de la route. La chute d'eau est sous. Nous avons dû descendre une falaise avec une pente d'environ 60 à 90 degrés. Il n'y a pas de transport public passant la cascade Cilancur. Donc, il est recommandé d'utiliser des véhicules privés, en particulier les motos. En plus de gagner du temps, l'accès de la route par district Alian est plus facile car la route est sans heurts. Parce qu'il n'y a pas de panneaux, indicateurs ou des signes qui indiquent l'emplacement de la chute d'eau exactement, c'est mieux que vous ayez demandé aux résidents locaux de vous prendre là-bas. Outre la cascade, le village Wadas Malang a aussi des sources d'eau chaude. Selon les habitants, les sources d'eau chaude ne sont jamais à sec, bien que c'est la saison sèche. Bon, chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain.
Chers juridis auditeurs de la voix de l'Indonésie, vous avez écouté tout à l'heure Pesona Indonesia au magazine de la culture. Et nous espérons que vous pouvez ajouter votre expérience après avoir écouté notre information dans la rubrique de magazine de la culture ou Pesona Indonesia. Maintenant, c'est le tour de notre émission, c'est magazine de variété indonésienne. C'est pas variété, mais la couleur indonésienne.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique de l'Indonésie en couleurs. Ce soir, le sujet est le Festival international des écrivains de Makassar 2016. Il y a beaucoup de façons qui peuvent être faites par les écrivains à améliorer leurs capacités. Outre beaucoup de pratiques, le partage d'expériences avec d'autres écrivains est un choix intéressant à faire. Rumata Art Space essaie de fournir le forum pour les écrivains indonésiens. Depuis 2011, Rumata Art Space a organisé Makassar International Writers Festival, MIWF, soit le Festival international des écrivains de Makassar, et cet événement a eu lieu à nouveau du 18 au 21 mai 2016 à Makassar, Sulawesi Sud. Ce sixième festival a eu lieu à 7 endroits et présente 61 conférenciers ou écrivains dans 33 activités. Dans cette série d'activités, certains auteurs et conférenciers bien connus de l'Indonésie et de l'étranger ont participé à partager leurs expériences et leurs idées sur une variété de sujets de choix. Ce festival a été suivi par un certain nombre de sources personnes étrangères, entre autres le gagnant de la compétition de Spoken Word, Alia Gabre de l'Oskali, et Deborah Emmanuel de Singapour, poète allemand Marius Hoop, producteur Mira Lesmana, Dewi Di Lestari, Ika Natasha et Aditya. Le fondateur de Makassar International Writers Festival, Lili Yulianti Farid, lors d'une conférence de presse a dit « Cette année, MIWF a pour thème « Lire », étant inspiré de la croissance des communautés de lire et de livre en Indonésie. » Selon Lili, outre de discuter sur la croissance de la sensibilisation à l'alphabétisation en Indonésie, dans quelques dernières années, on lance aussi un nombre de livres dans ce festival. Selon Lili, chaque année, MIWF présente toujours les programmes spéciaux. En 2016, elle introduit le concept pop-up de jardin, un projet de collaboration qui offre trois jardins thématiques, à savoir le jardin de lecture, jardin de saveur et jardin de lumière. Au jardin de lecture, des participants peuvent jouir les lectures dans la nuance de pique-nique. Chaque après-midi au jardin de saveur, les participants peuvent goûter du café et du thé accompagnés par les poésies. Cependant, au jardin de lumière, on présente la collaboration de chorégraphe Abdi Karia, musicien Juan Manyala et Dana Riza. Chaque soir, pendant le festival, on présente les performances thématiques comme La Galigo, The Beginning, Makassar, L'Histoire d'une Ville, Réclamation et Twilight Manquant et La Réflexion de la Réforme. Les jeunes écrivains talentueux en provenance d'Indonésie-Est, élus dans le programme Emerging Writers, présentent également leur travail au festival. L'ensemble du programme du festival est à travers le processus de curation à l'avance par l'équipe de MIWF. Ce festival est un festival qui implique les écrivains, les lecteurs, artisans du changement, les gens qui ont de grandes idées et libres. Makassar International Writers Festival 2016 était ouvert le mercredi 18 mai 2016 à Fort Rotterdam. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs et auditeurs de la voix de l'Indonésie en entier, vous avez écouté tout à l'heure le magazine de couleurs indonésiennes. Maintenant, c'est la fin de notre émission, mais tout d'abord, vous écoutez la dernière rubrique, ce magazine de musique.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme chaque semaine, nous présentons la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la Voix d'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et aussi le message. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons de dangdut chantées par Chacha Handika. Bon, chers amis, on écoutera la première chanson intitulée Embrassez-moi. Merci d'écouter la voix d'Ironésie diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson de Dangdut intitulée « Embrassez-moi » chantée par Chacha Handika. Il est célébré dans les années 80 avec son album « Angka 1 » ou « Numéro 1 ». Le vrai nom est Chacha Handika et Chacha Hermanto. Ses chansons telles que « Les bains des fleurs » et « Une fausse invitation » qui sont très célèbres. Il est aussi un artiste en dessinant le motif de batik, ainsi que acteur dans le film Capung Dangdut en 2006 avec le roi de Dangdut, Roma Irama. Il est également un auteur-compositeur de chansons de Dangdut. Bon, chers amis, maintenant je vais saluer aux auditeurs. Merci à tous ceux qui nous ont écrit ou envoyé des rapports d'écoute, notamment à M. Louis Guerra. Comment va notre ami en français, M. Mercier Maurice? Merci à vous pour les 5 rapports d'écoute envoyés. Toujours en France, pour passer le bonjour à René Grondin, meilleures salutations à notre ami Hervé Duval de France. Merci à vous pour le rapport d'écoute. Salut et merci à notre auditeur de Bogota, Colombia, Omar Alfredo Ortiz Robayo. Merci pour votre email et bien le bonjour en France à notre ami Jean-Marie Monplot. Comment allez-vous? Bon, chers amis, écoutons maintenant la deuxième chanson de Dangdut intitulée « Les bains de fleurs » chantée par Chacha Handika.
Chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie en entier, vous avez écouté tout à l'heure tout le programme de la Voix de l'Indonésie. Et merci de votre attention, vos équipes de ce soir. Vous disons bonsoir, rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt, au revoir, sampai jumpa.
Radio République Indonésie. Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.